Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres du MAG-UN de ce dimanche. 2,4 milliards américains, c'est le budget chiffré du plan cadre du système des Nations Unies en appui au gouvernement pour les 5 prochaines années. Le lancement de ce plan a eu lieu le jeudi dernier. Tout à l'heure, dans la rubrique Actu de la semaine, le coordonnateur résident des Nations Unies s'exprime à ce sujet. Former des acteurs des institutions sur la finance responsable ainsi que des experts des ministères sur la validation du guide des politiques sectorielles de développement. C'est le but de 2 ateliers tenus cette semaine à Kinshasa avec l'appui du PNUD. 2 sujets qui seront traités respectivement dans les rubriques décryptage et invités. Enfin, notre nouvelle en province nous emmène à Zongo dans la province de l'Équateur où une mission humanitaire est à pied d'œuvre sur place pour apporter une assistance aux réfugiés centrafricains et évaluer leurs besoins.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Nous vous le disions dans le sommaire, un plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement de la RDC a été lancé le jeudi 11 avril dernier à Kinshasa. Le gouvernement congolais a été représenté par son vice-ministre à la coopération internationale, Dismas Magbengu, et les Nations Unies par le coordonnateur résident Mustapha Soumaré. Honoré Missenga nous en parle avec beaucoup plus de détails dans ce reportage.
Ce plan cadre va couvrir la période 2013-2017. Il est axé autour de 5 priorités considérées comme le levier au développement de la RDC, la gouvernance, la croissance économique inclusive, la fourniture des services sociaux de base, la protection de l'environnement ainsi que la stabilisation et la consolidation de la paix. Mustapha Soumaré, coordonnateur résident des Nations Unies, explique le choix de ces priorités.
Nous avions pris le document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui est un document de planification du pays, plus le document de développement et de planification du pays. C'est sur cette base-là que nous avions défini, en fonction des mandats respectifs des différentes agences du système des Nations Unies, quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons contribuer. Vous verrez, par exemple, dans le cadre de ce plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, ce n'est pas dans tous les domaines que nous intervenons, parce que nous sommes obligés aussi de faire une sorte de priorité pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de résultats dans l'assistance que nous apportons au gouvernement.
Cette assistance se chiffre à environ 2,420 milliards de dollars, dont seulement 460 millions sont d'ores et déjà disponibles au niveau des agences onusiennes. Le solde, soit un peu plus d'1,9 milliard, reste à mobiliser. Mustapha Soumaré précise toutefois.
Les Nations Unies, ce n'est pas une agence de financement, c'est une agence d'appui technique. Alors pour nous, les 2 milliards nous permettraient véritablement d'initier des programmes pour lesquels certaines agences multilatérales ou bilatérales qui ont plus de ressources comme la banque ou les agences bilatérales comme le Canada, la France, la Belgique, la Suède, etc. peuvent aussi contribuer.
Le lancement du plan cadre a coïncidé avec la signature des plans d'action pour la mise en œuvre des programmes pays de l'UNICEF, du PNUD et du Fonds des Nations Unies pour la population. Edouin Winzing, représentant de cette dernière agence en République démocratique du Congo, parle de l'apport concernant le recensement.
Concrètement, on prévoit un appui technique et on prévoit aussi un appui financier parce que, comme vous savez, ce recensement est à ce moment budgétisé à environ 140 millions de dollars et il faut trouver quand même la moitié auprès de bailleurs et nous, on va donner une petite contribution financière mais surtout technique.
Combien?
Ça sera environ 5 millions pour 3 à 5 années parce que c'est pas seulement le déroulement du recensement. Après, c'est un appui technique et financier au renforcement du système statistique. Parce que si on a fait le recensement, il faut analyser toutes ces données et il faut les mettre en œuvre pour le développement. Donc on prévoit pendant ces 5 années un appui technique et financier intense pour le secteur statistique.
Le gouvernement de son côté se félicite de la mise en place de manière conjointe avec les agences onusiennes du mécanisme du suivi et de l'évaluation de leurs actions. Il attend néanmoins de ses partenaires un appui au plaidoyer international pour le respect de la souveraineté de la RDC et la restauration de la paix.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Des acteurs des institutions financières ont participé à Kinshasa le 9 avril dernier à un forum sur la finance responsable. Ce forum est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement et des bailleurs internationaux dans le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. C'est à ce titre que nous recevons dans cette émission Stéphane Amani. C'est le conseiller en microfinance, emploi et secteur privé au PNUD. Il décrypte pour vous les concepts finance responsable et inclusion financière. Il répond aux questions d'Honoré Missengakala.
Stéphane Amani, bonjour.
Bonjour.
Le FPM, Fonds pour l'inclusion financière en aide des Congo, une institution dont votre agence, le PNUD, est partenaire, a organisé le 9 avril à Kinshasa un forum sur la finance responsable. Qu'entendez-vous par finance responsable?
En fait, la finance responsable, c'est une finance qui intègre un certain nombre de valeurs éthiques dans la pratique de la finance. On a toujours eu une très mauvaise impression de la finance. Cette finance-là qui spolie les biens des gens, cette finance-là qui vient causer des dégâts dans les ménages ou dans les entreprises. Et là, la finance responsable s'adresse aux acteurs de la finance de manière à le faire de manière tout à fait responsable en intégrant les intérêts des uns et des autres, de toutes les parties prenantes et dans une perspective de durabilité.
Quels sont les objectifs de la finance responsable ?
En fait, la finance responsable tend en réalité à mettre un certain nombre de mécanismes qui protègent les clients, parce que l'on a vu toutes les fois que l'on a besoin des financements, très souvent les clients ou les gens qui s'adressent aux institutions financières ont tendance à tout accepter. Alors il appartient aux offreurs de services financiers, les institutions financières, les coopératives d'épargne et de crédit, à proposer un certain nombre de mesures qui tiennent compte de la situation de dépendance du client et donc à protéger le client, mais aussi intégrer d'autres normes en rapport avec l'environnement, comme par exemple le financement d'un certain nombre d'activités qui pourraient dégrader l'environnement dans son ensemble. Et donc il y a un choix à faire à ce niveau-là, imposer un certain nombre de normes, identifier des secteurs ou des activités qui doivent ou qui ne doivent pas être financées, et s'ils doivent être financés, essayer d'encadrer l'activité de financement. En plus de ça, les offreurs de services financiers doivent s'assurer qu'en plus de leur rentabilité, de leur durabilité, ils doivent également trouver un meilleur équilibre avec la performance sociale, qui consiste au fait à ce que le bénéficiaire d'un service financier puisse également, à travers une opération de crédit ou d'épargne, qu'il puisse également trouver son compte.
Et le client, c'est qui ici?
Les clients, c'est toute personne qui s'adresse aux institutions financières. Les clients, c'est aussi les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de financement. Les clients, c'est toi et moi qui avons besoin d'un certain nombre de services financiers.
Donc la finance responsable intéresse aussi bien les institutions financières que leurs clients.
Bien entendu, ils sont des acteurs clés à ce niveau parce qu'il leur appartient de proposer en fait, à la clientèle un certain nombre de mesures. Et préalablement, donc, ils doivent intégrer un certain nombre de principes de responsabilité qui permettront in fine de ne pas ruiner le client, mais aussi de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Imaginez par exemple que l'on finance des activités qui accroissent la déforestation dans un milieu ou de mauvaises pratiques agricoles. Cela pourrait avoir une incidence non seulement sur les bénéficiaires, les clients, mais aussi sur toute la société avec la rareté de pluie suite au changement climatique, ou encore à la dégradation des sols auprès des agriculteurs qui pratiqueraient l'une ou l'autre activité.
Donc un financement qui ne tient pas compte de l'environnement, ce n'est pas un financement responsable?
Ce n'est pas un financement responsable, je dirais, c'est pas un financement recommandable.
Monsieur Stéphane Amani, un autre concept que nous avons entendu lors de ce forum, c'est l'inclusion financière. C'est quoi? Quel est le rapport avec la finance responsable?
Oui, on a constaté durant des années que la finance intéressait une catégorie de gens qui avaient de garanties matérielles, c'est-à-dire de riches, que la finance n'était adressée qu'aux gens d'un certain rang, était laissée en dehors du circuit toutes les personnes qui n'avaient pas de moyens. S'il y a déjà des barrières à l'entrée d'une banque, que l'on exige par exemple des dépôts obligatoires pour avoir un compte dans une banque, ou alors que le crédit et qu'il faut offrir des garanties estimées à un montant supérieur, on retrouve un rationnement de fait d'une catégorie de clientèle. Alors, les institutions doivent être trop ingénieuses à développer deux produits qui correspondent aux besoins, par exemple, de petits fermiers dans les milieux ruraux, aux besoins des enseignants, aux besoins du cireur. Et là, c'est pour une forte inclusion de la grande part de la population dans les circuits financiers.
Donc, on est dans la microfinance, là.
Exactement. La microfinance, mais maintenant, au départ, préalablement, on pensait toujours aux institutions de microfinance, aux coopératives d'épargne et de crédit. Mais maintenant, de plus en plus, les banques et d'autres grandes institutions s'intéressent davantage à ces populations et fournissent des efforts pour se rapprocher davantage. Et ce mouvement, on les voit dans pas mal de banques déjà ici en RDC.
Alors, comment le PNUD est-il concrètement impliqué dans la finance responsable, l'inclusion financière ?
Nous sommes impliqués parce que d'abord nous croyons que la finance pourrait améliorer véritablement l'inclusion des populations pauvres dans les circuits de marché.
Oui, quelles sont les actions concrètes, ces actions d'appui ?
Concrètement, nous intervenons au niveau de la réglementation. Nous appuyons les gouvernements dans la mise en place de politiques. Nous avons un plan d'action qui est orienté dans ce sens. Nous travaillons avec la Banque centrale dans tout ce qu'il fait dans la régulation et la supervision du secteur auprès des acteurs. Nous travaillons également avec les associations professionnelles de manière à ce qu'ils soient à mesure de se renforcer mutuellement, de renforcer le secteur lui-même par la diffusion de meilleures pratiques, par le contrôle mutuel, hein, le code éthique, parce qu'on a vu pas mal de choses dans ce pays avec des institutions qui ont fui avec les épargnes de clients. Et donc, nous appuyons les secteurs à ce niveau-là. Mais on travaille également avec un fonds que l'on appelle Fonds de promotion de la microfinance, qui a d'ailleurs organisé ce forum, qui, au fait, qui est un fonds multi-bailleur, où on travaille avec d'autres bailleurs, et qui donne des appuis techniques aux institutions de microfinance, hein, les appuyer à développer un certain nombre de mécanismes. Qui leur permettrait de se rapprocher de bénéficiaires, mais aussi donner du financement direct aux institutions pour élargir leur gamme de produits ou se déployer dans des coins éloignés.
Monsieur Stéphane Amani, merci.
Nos nouvelles en bref, 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que promet la Banque mondiale à la RDC pour le financement du projet INGA 3, une promesse annoncée par Eustache Louayoro, directeur des opérations de cette institution en RDC. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de marché d'électricité par la consommation domestique et à l'exportation, dont la Banque mondiale a déjà financé plusieurs étapes pour un montant total de 580 millions de dollars. Dans le volet humanitaire, Antonio Guterres, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a séjourné en RDC du 11 au 13 avril. Un séjour qui lui a permis d'effectuer une visite de terrain le vendredi 12 avril à Zongo, dans la province de l'Équateur. Il s'y est imprégné de la situation des réfugiés centrafricains dans cette partie du pays. Antonio Guterres s'est entretenu pendant son séjour avec les autorités congolaises. Plus de 22 000 déplacés sont bénéficiaires d'une assistance humanitaire distribuée à partir de la semaine dernière par le PAM dans la province du Nord Kivu. Le PAM a ciblé des déplacés vivant dans des camps gérés par le HCR, mais l'assistance s'étendra aussi, selon la source, à tous les sites spontanés autour de la ville de Goma. Caritas et World Vision, partenaires du programme alimentaire mondial, sont eux aussi impliqués dans cette distribution. Et enfin, l'UNICEF et l'OMS ont présenté jeudi dernier à Londres un nouveau plan d'action qui entend pour la toute première fois lutter conjointement contre la pneumonie et la diarrhée. Ce sont là deux des trois principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique. L'objectif ici est de ne plus avoir de décès évitable dû à ces maladies en Afrique d'ici à 2025, ce qui épargnera la vie de plus d'un million d'enfants chaque année.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Un atelier sur la validation du guide pour l'élaboration des stratégies sectorielles et une formation des formateurs s'est tenue à Kinshasa du 9 au 12 avril dernier. Des experts de 5 ministères ont été formés sur l'utilisation du guide validé avec l'appui du PNUD. Véronique Parquet, experte du pôle stratégie de développement et des finances du bureau régional du PNUD à Dakar, a apporté ses services à cette formation. Elle s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Coco sur l'importance de ce guide validé et son impact sur le développement de la RDC.
Madame Véronique Parquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte en planification, suivi et évaluation au Centre régional du PNUD à Dakar. Vous participez aux travaux de l'atelier sur les politiques sectorielles des formations et des formations des formateurs. Quel est votre apport dans ces travaux, madame?
Je peux vous expliquer très simplement. Donc, premièrement, c'est le centre régional de Dakar qui a élaboré la première mouture du guide. Et ensuite, ce guide a été relu techniquement en janvier par les différents ministères sectoriels pour qu'il y ait un dialogue et que, pour que tout le monde s'accorde sur les concepts principaux. Et l'étape d'aujourd'hui est une étape de validation politique de ce guide. Donc le guide a déjà été travaillé en atelier technique en janvier. Aujourd'hui, il s'agissait en fait de le valider politiquement au niveau national. Ensuite, à partir de demain, 5 ministères prioritaires suivant la stratégie de réforme des finances publiques de la RDC seront formés à l'utilisation du guide. Évidemment, les autres ministères seront formés également dans l'année 2013 et 2014. Et nous avons privilégié une démarche de formation de qualité. D'un point de vue pédagogique, il n'est pas possible de former plus de 30 personnes en même temps.
Oui, justement, Madame Véronique, vous parlez du guide. Ces guides, est-ce qu'on peut avoir son contenu très brièvement? Quels sont les grands axes de ces guides?
Donc le guide est composé de plusieurs parties. Il y a une partie plus théorique qui comporte un chapitre introductif et un chapitre sur le fondement par rapport à une politique sectorielle. Ensuite, les deux chapitres les plus importants ont trait à la méthodologie d'élaboration d'un guide de politique sectorielle. Donc on a privilégié la méthodologie participative. Et donc on explique pour chaque étape quels sont les éléments essentiels méthodologiques pour l'élaboration d'un document de politique sectorielle. Ensuite, par rapport à la rédaction de ce document de politique sectorielle, le guide explique chaque concept clé et donc chaque section qui doit figurer dans un document de politique sectorielle, c'est-à-dire la mission du secteur, la vision, les orientations stratégiques, les objectifs, les programmes et les actions.
Et alors, quel est le rapport entre ces guides et l'élimination de la pauvreté ou la lutte contre la pauvreté?
Donc, le document de croissance et de réduction de la pauvreté et le document de planification globale, donc c'est le document de planification du développement de l'ensemble du pays. Ceci constitue le cadre fédérateur par rapport à l'élaboration des politiques sectorielles. À partir du document de croissance et de réduction de la pauvreté, sont construites chaque stratégie sectorielle, c'est-à-dire en fait que chaque ministère doit également avoir un document de planification à moyen terme pour pouvoir réaliser les objectifs du document de croissance et de réduction de la pauvreté.
Alors, est-ce qu'il y a des exemples comme ça de ces guides qui ont été appliqués dans un pays africain et où les résultats ont été escomptés?
Oui, je peux vous donner l'exemple du Burkina Faso. Donc, il y a quelques années, le Burkina s'est doté d'un guide du même type. Et depuis, l'ensemble des ministères disposent bien d'un document de planification à moyen terme basé sur une approche programme suivant la réforme des finances.
Et l'application marche bien?
Par rapport à la mise en œuvre, les politiques insistent sur les dispositifs de suivi et évaluation. C'est un processus qui n'est pas terminé. Donc, par exemple, pour vous donner en fait l'exemple du Burkina Faso, le Burkina Faso vient de se doter de cellules spécifiques chargées du suivi et évaluation au sein du ministère du Plan.
Et quels sont les résultats auxquels la population peut s'attendre après la validation de ces guides?
Donc, il s'agit d'un instrument de planification à moyen terme. Donc, à court terme, vous n'allez pas avoir de résultats puisqu'il s'agit d'un instrument de planification à moyen terme. Mmh. Mais dans ces documents, il y a des objectifs spécifiques qui sont très précis, avec des indicateurs très précis, du type, par exemple, taux d'accès aux soins de santé. Ça, c'est très concret pour la population.
Et ça prend combien de temps ?
Donc, chaque politique est un document de planification de 3 à 5 ans. Donc, pour pouvoir évaluer la politique, de 5 à 10 ans. Donc, vous devez attendre, en fait, les 5 ou 10 ans avant, en fait, de déterminer les impacts. Mais par rapport aux objectifs spécifiques, il y a déjà des résultats intermédiaires. Et donc, chaque année, il est possible de mesurer certains indicateurs.
Madame Véronique Parquet, je vous remercie.
Je vous remercie.
Notre nouvelle en province à présent, nous sommes au nord-ouest de l'Équateur. La mission conjointe MONUSCO, Police nationale congolaise, Agence des Nations Unies a visité mercredi le site de Worobe, situé à 19 km en amont de la ville de Zongo sur la rivière Ubangi. Ce camp abrite à ce jour 2509 réfugiés centrafricains. Ils ont fui l'insécurité de leur pays. Mais comment vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants dans ce camp? Notre envoyé spécial Dominique Wolombi Munga Pangue, qui a visité ce camp avec la mission conjointe, nous en parle dans ce reportage.
Worobe, ce site ouvert au mois de septembre par les autorités locales et les HCR, abrite à ces jours 2509 réfugiés centrafricains. Aux premiers occupants venus d'Engele dans les territoires de Busobolo se sont ajoutés ceux de la deuxième vague qui ont fui du 23 au 25 mars la chute du régime de l'ancien président François Bozizé. Selon le chef de site, le camp de Worobe, qui s'agrandit progressivement, a une superficie de 18 hectares. On y trouve un service médical avec une maternité où un bébé de sexe féminin venait de naître au moment où la mission visitait le camp. De la même façon, un jeune homme venait d'y décéder. On y organise aussi pour les enfants l'école où les enseignants réfugiés sont mis à contribution. Ici, c'est la CNR, Commission nationale des réfugiés, qui assure l'administration et fait respecter la bonne conduite, secondée par les assistants sociaux de l'ADS, Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Dans le cas de Worobe, il se pose des problèmes de promiscuité sexuelle. Une question que les HCR commencent à résoudre avec la multiplication des habits pour séparer les réfugiés en famille. Mais il faut que ceux-ci coopèrent par la fabrication des briques ad hoc. Les HCR fournissent l'expertise et les autres matériaux. Tant que ces réfugiés centrafricains ne manifesteront pas le désir de retourner dans leur pays, ces camps ne pourront fermer, fait savoir les chefs des sites. Mais il faudra les initier entre-temps aux activités génératrices de revenus pour leur suivi et celle de leur foyer. De retour de Zongo à Gemena, Dominique Olombi-Pongapangé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Par rapport à mon formation, j'ai étudié la communication, puis après je me suis dirigée vers l'aide humanitaire internationale. Donc je travaille pour UNMAC, qui est le centre de coordination de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Ma fonction, c'est spécialiste en éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre. Et j'ai rejoint l'équipe en octobre 2012, donc il y a 6 mois. Mes tâches quotidiennes, c'est préparer donc les modules de formation et donner des formations donc en éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre. C'est coordonner toutes les activités d'éducation au risque dans toute la RDC, donc avec nos partenaires nationaux et internationaux. C'est assister les partenaires dans toute la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation donc des projets que nous finançons et que nous mettons en œuvre. C'est également fournir des avis techniques sur les stratégies en éducation au risque, les différents outils à créer et à diffuser. Mon parcours avant cette agence, je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles. Et là-bas, je gérais donc des projets d'ONG belges un peu partout dans le monde donc, et dans des secteurs tout à fait différents. Agriculture, enfants des rues, voilà. Comment je gère mon temps libre? Activités culturelles, beaucoup de sport, courir, salle de sport, fitness. Quelles sont mes préférences au niveau en musique, sport, je dirais en sport le football. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup la cuisine congolaise. Ce que j'aime particulièrement, c'est voilà, les gens, même si la vie n'est pas toujours facile, les gens ont toujours le sourire et essayent de voir toujours le bon côté des choses, ce qui nous manque un peu en Europe. Mes projets d'avenir, c'est un peu tôt pour me demander, vu que je suis assez nouvelle dans le monde de la lutte anti-mine, mais c'est un secteur que je trouve vraiment challenging. Et j'aimerais bien poursuivre dans cette voie.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Je m'appelle Joël Alouléa. Je suis étudiant à l'UEC Gombe. Une question à Ocha. Quelle est la situation humanitaire au niveau des Zongo à la suite du changement des pouvoirs intervenus en Centrafrique?
Merci Joël. Suivez la réponse à votre question.
Le développement de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine a fait qu'il y a eu un afflux de personnes vers les provinces de l'Équateur et Oriental. Pour parler particulièrement de Zongo, à la suite du changement de pouvoir, on a estimé environ 5000 le nombre de personnes qui avaient traversé ce week-end-là, mais il y avait déjà environ 25 000 personnes qui étaient identifiées au niveau de Zongo. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en même temps qu'en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés, était en train de faire le pré-enregistrement. On a eu les chiffres principalement de la DGM qui se trouve à la frontière et identifie les personnes qui traversent. Et le travail de pré-enregistrement que fait le HCR, c'est effectivement confronter ces chiffres-là avec les personnes qui sont effectivement sur le terrain. Et quand ce travail sera terminé, on vous donnera effectivement le nombre de personnes réfugiées qui se trouvent au niveau des Zongo. Et ces personnes ont de nombreux besoins auquel la communauté humanitaire est en train de répondre actuellement, notamment le Programme alimentaire mondial avec des vivres et le HCR et leurs partenaires avec des articles ménagers essentiels.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À vos carnets pour noter les rendez-vous de cette semaine. Ce lundi 15 avril, l'UNESCO lance le projet BEAR, Better Education for Africa's Rise, un projet qui vise le renforcement des capacités pédagogiques, matérielles et organisationnelles de deux établissements de formation professionnelle dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de l'Institut technique agro-vivrier de l'Ansele et de l'Institut technique et professionnel de Bumbu. Formulé en avril 2011 par les experts de l'UNESCO, ce projet a été validé en mars 2012. Il s'inscrit dans la stratégie sous-sectorielle de développement de l'EPSP, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La section des affaires civiles de la MONUSCO se rend ce même lundi 15 avril à l'université de Kinshasa pour remettre des équipements de visibilité. Il s'agit de t-shirts MONUSCO, casquettes, pagnes et brochures au centre Nodassa. Ces équipements sont destinés à près de 500 étudiants de l'université de Kinshasa Unikin. Enfin, le 16 avril, c'est le lancement de la campagne de sensibilisation à la promotion de la paix et de la non-violence autour du dialogue entre les religions organisée par l'unité Outreach de la MONUSCO et le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du Congo. Cette campagne ira jusqu'au 25 avril. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimbwini, j'étais à la présentation avec l'assistance technique d'héritier Sidia Kala. Nicole Ngaka a assuré la supervision de ce magazine. Jean-Pierre Elali Coco était à la coordination, Honoré Missengar au portage. Vous pourrez aussi suivre cette émission en rediffusion aujourd'hui même à partir de 19h03 heure de Kinshasa, 20h03 si vous êtes à l'est de la République. Écoutez aussi cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Vous avez des préoccupations, des questions ou un apport, vous pouvez toujours nous contacter au 082 30 76 630 ou nous laisser votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Merci de nous retrouver la semaine prochaine.